Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous. Pas moins de 4 policiers nationaux blessés dans la nuit de mardi à mercredi dans notre département lors d'interventions de police secours sur Sainte. Tout d'abord, des gardiens de la paix qui intervenaient pour un différend conjugal violent en présence d'un enfant de 10 ans ont reçu des coups. Bilan 3 jours d'ITT. Sur Rochefort, pendant un contrôle avec découverte d'un fusil caché dans un sac, des policiers ont également été frappés. 1 et 2 jours d'ITT. Et puis à La Rochelle, alors que les gardiens de la paix intervenaient pour un vol par effraction, l'auteur des faits a pris la fuite et a fait chuter un policier pendant son interpellation. Il a 3 jours d'ITT. Un accident de moto à Loumeau, près de La Rochelle. Il s'est produit hier après-midi vers 13h30 dans la route de La Rochelle. Une moto seule en cause avec 2 blessés légers, pris en charge par les sapeurs-pompiers et les médecins du SMUR. Les 2 victimes ont été hospitalisées. En mer, la sécurité c'est nous, mais la prudence c'est vous. C'est le message répété inlassablement par la préfecture maritime de l'Atlantique à l'occasion de la présentation hier du bilan de la campagne de sécurité des loisirs nautiques sur toute la façade atlantique, dont notre littoral. Les autorités déplorent cette année 2885 opérations de secours, 128 de plus qu'en 2024, soit une hausse d'environ 3,5%. Le nombre de décès a également augmenté, 23 victimes, 2 de plus que l'an dernier. La préfecture maritime qui insiste sur l'importance des équipements de sécurité et le premier d'entre eux, le gilet de sauvetage qui permet d'éviter des drames en mer. Le capitaine de frégate Guillaume Loral, porte-parole du préfet maritime de l'Atlantique.
C'est vraiment le message de prudence qu'on s'efforce de répéter chaque année et qu'il est important de relayer à vos enfants, à vos proches. Donc c'est prendre en compte les conditions météo, prévenir quelqu'un de vos intentions et ensuite partir équipé, donc avec au moins un téléphone. Je rappelle le numéro pour les secours, c'est le 196 et avoir également un moyen de signalement lumineux, parce que s'il vous arrive un problème, c'est important de pouvoir se signaler une fois que la nuit est tombée. Donc pour ça, un bâton luminescent, c'est le plus efficace. On a eu plusieurs cas cette année où les gens ont été sauvés par leur gilet sauvetage suite à un impact avec un caillou, un chavirement, après avoir été éjecté d'un Zodiac. Vous ne serez pas forcément en état ou en capacité physique de nager. Donc le gilet, c'est votre assurance vie. Le gilet, c'est vraiment indispensable à bord à tout âge. On a eu quelques histoires tragiques. Hein. On a comme ça un homme qui est décédé, tombé de son voilier, sans équipement de sécurité, donc sans gilet. Et malheureusement, il est décédé. Donc c'est vraiment un événement ou un élément de sécurité primordial. Portez vos gilets dès que vous partez en mer, quel que soit votre âge et votre condition physique.
Les pêcheurs à pied sont également toujours nombreux à se faire piéger par la marée malgré les consignes de prudence.
Cette année, effectivement, a été marquée par un grand nombre d'isolements par la marée. Donc c'est encore un point sur lequel on insiste beaucoup. Les pêcheurs à pied doivent s'informer de la marée, prendre en compte les conditions locales et puis surveiller leur pratique en fonction du tempo de la journée. Donc ne pas se laisser absorber par leur pêche de manière à rentrer à temps pour ne pas se faire surprendre. Pour ça, une astuce, mettez un rappel sur votre téléphone 2 heures avant le point que vous êtes fixé et ça vous permettra de rentrer à temps et de pas vous faire isoler. Cette année, on a eu 110 opérations de secours de personnes isolées par la marée. Donc c'est un chiffre qui est significatif et ça, c'est réellement des opérations qui auraient pu être évitées avec un petit peu de préparation plus assidue de la part des intéressés. Les opérations, c'est à chaque fois une vedette des sauveteurs, éventuellement un hélicoptère selon les situations, et donc c'est un moyen qui est occupé sur cette affaire-là et donc qui n'est pas disponible pour un autre usager de la mer qui pourrait en avoir besoin.
Alors en cas d'urgence, on le rappelle, un numéro essentiel, le 196 ou le canal 16 sur la radio. Le financement des travaux de réparation de Fort Boyard inquiète l'opposition départementale. Le groupe de gauche au cœur des solidarités rappelle qu'il est favorable à cette opération emblématique pour la Charente-Maritime. Mais ses responsables s'interrogent sur le mécénat qui a bien du mal à décoller malgré le soutien de la Fondation du patrimoine. Et la coprésidente Brigitte Dévaux de réclamer un lissage des dépenses, tout en s'interrogeant surtout sur le volume général des travaux. La facture prévisionnelle est de 44 millions d'euros, mais selon elle, elle pourrait augmenter. On veut une vérité des prix, réclamera-t-elle à la session d'automne du département qui s'ouvre lundi prochain.
Pour rappel, notre groupe ne s'est pas opposé à la réhabilitation de Fort Boyard. Pour nous, c'est un monument qui est adoptée par les Français et même au niveau international. En revanche, on souhaitait travailler sur un lissage de la dépense pour que ça n'impacte pas les urgences sociales et notamment du logement, par exemple, sur le département. Ça n'a pas été le choix de la majorité. Elle a choisi de financer très rapidement les travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, nous sommes en interrogation sur le volume général de ces réparations. Il y a une enveloppe de 44 millions qui est prévue pour les réparations des fondations et du Havre, du Petit Port et l'Éperon. Mais il semblerait qu'il y ait des réparations qui ne soient pas prévues dans l'enveloppe des 44 millions. Nous nous interrogerons sur le volume réel de financement nécessaire pour la réhabilitation et l'accessibilité au public de Fort Boyard. Il semblerait qu'il faille voter une nouvelle enveloppe et on aimerait avoir la vérité des prix sur la réhabilitation totale de Fort Boyard.
Et pour Brigitte Desvaux, on peut trouver d'autres sources de financement pour les travaux de réparation du Fort Boyard en demandant pourquoi pas aux sociétés de production qui exploitent le célèbre jeu télévisé d'être un peu plus généreuses.
On a interrogé à plusieurs reprises sur le financement par les sociétés de production qui exploitent aujourd'hui Fort Boyard. Il semblerait quand même qu'on pourrait, à notre avis, leur demander un petit peu plus que ce qu'ils donnent aujourd'hui. Voilà. Donc là aussi, on s'interroge et je crois qu'on n'a pas la transparence totale de ce que donnent les sociétés de production. On nous parle toujours de dépenses indirectes qui sont assumées par ces sociétés. Mais on aimerait quand même qu'il y ait une contribution supplémentaire.
Pour le mécénat, Brigitte Desvaux parle de 360 000 euros, mais la présidente du département Sylvie Marcilly annonce le chiffre de 500 000 euros. On est toutefois loin de l'objectif de 9 millions avec les dons des particuliers et le mécénat d'entreprise. J'y travaille personnellement avec la Fondation du patrimoine, rappelle la présidente du département. À Barzan, le musée et site gallo-romain du FA vient d'obtenir le label d'État destination d'excellence pour une durée de 5 ans. La distinction remplace la marque qualité tourisme que le site détenait depuis 2019. Le label valorise à la fois la qualité de l'accueil et l'éco-responsabilité en s'appuyant sur des critères comme la gestion des déchets, la mobilité durable, la sobriété énergétique et l'accessibilité pour tous les publics. Il est midi 13, on se retrouve dans un instant.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Des collégiens de Sainte à la panthéonisation de Robert Badinter. Il s'agit d'une classe de 3e du collège Edgar Quinet qui sera aux premières loges de cette cérémonie historique. Des élèves et leurs professeurs invités par le président de la République Emmanuel Macron. Après une démarche originale puisque Nathalie Proto-Coudert, professeure d'histoire-géographie, et Laure Duportet, professeure de français, ont tout simplement fait une demande auprès de la préfecture de Charente-Maritime et la réponse a été positive. Nathalie Proto-Coudert. Ah, Nathalie Proto-Coudert, que nous allons entendre incessamment sous peu.
En fait, Robert Badinter, c'est une grande figure humaniste du XXe siècle. Et donc, pour nous, les professeurs, c'est quelqu'un qui incarne les valeurs que nous souhaitons et que nous devons faire passer auprès de nos élèves. Et un petit peu comme Simone Veil en son temps, nous avons choisi de travailler sur Robert Badinter. Donc, la cérémonie de panthéonisation, c'était un bon moment. Même si nous n'avions pas été invités, nous aurions quand même travaillé là-dessus. Évidemment, aller à la panthéonisation, c'est la cerise sur le gâteau, mais y aller sans travailler autour, ça n'avait pas non plus d'intérêt. Les élèves ont tout de suite perçu que c'était assez exceptionnel ce qui leur arrivait. Donc, ils sont évidemment très motivés, ils travaillent bien, ils travaillent avec application, avec cœur. Et puis, ils découvrent progressivement que ce personnage de Robert Badinter, c'était quelqu'un vraiment de très important à qui on va rendre hommage. Et le fait d'être associé par leur présence à cet hommage, évidemment, ils le ressentent véritablement comme un honneur quand même.
Le déplacement au Panthéon est soutenu par l'établissement qui a décidé de prendre en charge le coût du déplacement et de rendre cette sortie gratuite pour les familles. Le collège est situé dans un quartier prioritaire de la ville de Sainte et bénéficie depuis la rentrée dernière du label Cité éducative. La panthéonisation de Robert Badinter commencera ce soir à 18h30. À Royan, une soirée d'information sur le mécénat des associations. Elle est organisée ce soir par le CODEV, le Conseil de développement Royan-Atlantique, à la Maison des associations. Le CODEV est une structure composée de bénévoles représentant les milieux économiques, vie sociale, culturelle et sportive des 33 communes du territoire. Il s'est penché depuis 2021 sur la santé des 1200 associations dans le cadre d'une vaste enquête pour prendre la température après Covid. Un tissu associatif dynamique et qui se porte bien dans l'ensemble, mais avec ce constat récurrent, pas facile de trouver de l'argent et pour trouver de nouveaux financements, ça ne s'improvise pas. Michel Belloir, référent de la commission vie associative.
Nous avons organisé l'année dernière les rencontres de la vie associative au Palais Royan Événement, qui a réuni plus de 200 personnes, pour aborder quatre sujets qui sont essentiels concernant les associations. C'est le financement des ressources diverses, la formation et les relations humaines, les affaires juridiques et information communication. Nous avons fait venir des experts qui ont présenté donc ces thématiques. Il y a eu bien sûr des réponses questions par rapport à cela auprès des responsables associatifs présents. Ça a été très porteur de bon pour les associations présentes. Et de là, nous avons également affiné un petit peu notre recherche. On s'est aperçu qu'il y avait bien sûr un souci financier comme trois quarts du temps et quelles étaient les portes ouvertes vu le contexte actuel où les collectivités ont du mal à porter les subventions attendues. Et on se tourne vers le mécénat, qui est un grand mot, mais le mécénat, c'est très compliqué juridiquement, au niveau de l'organisation, au niveau administratif. Et donc, on a choisi ce thème pour aider les associations quand même à faire leurs recherches en nous appuyant sur l'ordre des experts comptables Nouvelle-Aquitaine. Il y aura deux personnes, donc experts comptables, qui vont venir nous apporter la bonne parole et surtout les bonnes pratiques concernant ce mécénat.
Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet du mécénat aux associations, rendez-vous ce soir à 18h30 à la Maison des associations de Royan.
Demoiselle, interview.
Avec nous dans le studio, Denis Roland et Christophe Escuriol. On va parler ensemble du CLO, cette association qui gère un lieu connu à Rochefort, le CLO La Pérouse. L'histoire a commencé il y a quelques années et ça marche très bien. Racontez-nous un petit peu, rappelez-nous comment tout a commencé, comment l'aventure a commencé. Christophe Escuriol.
Oui, bonjour tout le monde. L'aventure a commencé, la première mouture, c'est en 2019 où l'association Morène Mort, qui est à la base de ce projet, a investi avec d'autres la cour du CLO pour trois événements en mai, en juillet et en septembre 2019. Et ça a été le début de l'aventure de ce tiers-lieu culturel, artisanal et convivial au CLO, qui a beaucoup évolué depuis la première mouture des concerts et ateliers de créateurs et marchés de créateurs dans la cour, mais qui a gardé cette notion culturelle, artisanale, citoyenne au sein d'un patrimoine immobilier magnifique qu'est le CLO La Pérouse.
Alors qu'est-ce qui se passe au CLO aujourd'hui? Il y a plein d'événements, il y en a pour tous les goûts.
Exactement, donc le CLO, c'est un tiers-lieu culturel, artisanal et convivial. On a une baseline qui dit culture, visseuse et cornichon, qui définit un petit peu les trois piliers de ce que l'on est. Donc la culture, y a des propositions culturelles, y a deux saisons chez nous, la saison en extérieur, juillet-août, où tout se passe dehors et c'est plutôt des propositions qui sont de l'ordre musical. Et puis il y a la saison en intérieur, qui part de septembre jusqu'à mai, où là on est ouvert tous les vendredis et tous les samedis et un dimanche par mois aux mains. Sur des propositions qui sont toujours gratuites, donc l'entrée est toujours gratuite chez nous et avec une programmation qui est toujours éclectique. Donc il y a à la fois des concerts, il y a à la fois du théâtre, de l'impro, de la philo, du slam, des expositions, de la photo, du cinéma, de la danse. On essaye d'être le plus varié possible pour que la curiosité des uns et des autres puisse se nourrir et que aussi les acteurs du territoire puissent s'exprimer artistiquement dans un espace dédié, une scène ou un lieu prévu pour ça. Ça, c'est la partie très culturelle. À cette partie culturelle, on ajoute des ateliers culturels qui ont lieu tous les jours. Donc là, il y a différentes associations qui interviennent au CLO et qui proposent de la danse, du théâtre, etc. Ça, c'est la partie très culturelle. Après, on a une partie très artisanale. Donc, au CLO, il y a aussi des artisans. Donc, ils sont encadrés par une association qui s'appelle les associations de l'atelier partagé de l'estuaire, qui propose dans un même lieu, dans des espèces d'ateliers, pas des espèces, dans des ateliers qui occupent une place autour de 500 mètres carrés. Donc, c'est des grands ateliers. Atelier bois, atelier fer, de la forge, de la céramique et aussi du cuir, où la particularité, c'est qu'il y a à la fois des professionnels qui travaillent sur ce lieu-là, mais aussi des citoyens, des gens qui ne sont pas professionnels, qui viennent là et qui bénéficient à la fois d'outils professionnels, d'encadrement professionnel, de technique professionnelle et qui font leur propre projet. En fait, l'idée, c'est que les particuliers viennent aux APE, prennent une adhésion à 20 euros, ont un projet mettant de faire une bibliothèque et seront formés sur les machines pour ne pas se blesser et vont créer au milieu d'artisans professionnels leur propre projet. Cette idée de mutualisation des outils de production, de transmission, mais aussi de mutualisation des espaces de travail, c'est au cœur aussi de cet aspect artisanal. Et le dernier grand axe, qui est l'axe convivialité, donc porté par le sous-terme cornichon, c'est que au clos, donc l'ensemble des entrées sont gratuites, c'est un élément de la convivialité, il y a toujours à manger et à boire, et c'est toujours fait par des bénévoles avec beaucoup d'amour, à des tarifs qui sont généralement assez très abordable et avec des produits faits maison. Alors de plus en plus, on essaye d'aller vers le local et le raisonné. Le bio, on peut pas le tenir tout le temps, mais on essaye. Voilà ce qui se passe au clos au quotidien.
Parlons maintenant de l'avenir. Il est enthousiasmant.
L'avenir est aussi enthousiasmant que le présent et que le passé. C'est merveilleux, le clos. En fait, une des grandes particularités du clos, c'est que c'est un projet qui est construit à la fois par une asso de citoyens et par la communauté d'agglo Rochefort-Océan. La CARO a, dès 2019, dit « Banco, construisons ensemble un projet pour le territoire ». Et c'est ce qui fait qu'on peut envisager des investissements importants, qu'évidemment l'association seule ne pourrait pas. La CARO est propriétaire du lieu et elle a envie, pour accompagner le projet, d'investir très fortement dans le bâtiment, de le rénover intégralement. C'est une rénovation importante qui va prendre du temps parce que c'est un projet important, hein. Il faut évidemment respecter la qualité architecturale et patrimoniale du lieu, parce qu'on est aussi installé dans un lieu qui a une histoire, hein, c'est les anciens abattoirs de la marine, un bâtiment qui a été imaginé par Pierre Touffert, qui est aussi l'architecte de l'hôpital de la marine à la fin du 18e. Et donc forcément, on travaille aussi avec les services de l'État pour pas faire n'importe quoi. Donc ça prendra du temps, si tout va bien, je vous la fais courte, mais si tout va bien et qu'on passe toutes les étapes, d'ici 2030, on devrait avoir un bâtiment tout neuf. Mais que ce soit relativement lointain n'est pas forcément en soi un problème, même si on a évidemment envie que tout aille très vite. Ça nous permet, nous, d'accumuler des expériences, donc d'être aussi meilleurs, d'avoir un programme architectural qui soit plus solide qu'il n'aurait sans doute été il y a un an ou deux. Donc on prend ce qu'il y a de bon dans tout, hein, même s'il y a aussi des choses qui ne sont pas ce qu'on souhaitait. Finalement, on s'en sort très bien.
Donc on aura une nouvelle salle de concert.
Entre autres choses, il y aura une salle de musique actuelle, en effet, c'est le souhait de la CARO, c'est le souhait du clos. Mais il y aura aussi des bâtiments, les bâtiments actuels proposeront des ateliers, des studios, des lieux de répétition, etc. Et peut-être même, je ne sais pas si on peut en parler, mais peut-être même que la Rock School et l'Electro School pourraient nous rejoindre. En tout cas, c'est une hypothèse qui a un sens, qui est assez logique, ils jouent déjà régulièrement chez nous. Et voilà, et on crée un petit écosystème avec tout à côté de nous, il y a les camarades de l'Ampli à la Poudrière qui font venir aussi des amateurs qui peut-être pourraient après venir au clos. Enfin, il y a quelque chose d'un peu vertueux entre le conservatoire, l'Ampli et le clos, et la CARO bien sûr, qui pourrait se mettre en place. C'est vraiment un projet de territoire, le clos, et c'est un projet à la fois pour chacun qui a envie de rencontrer d'autres gens, de faire quelque chose collectivement pour ce territoire de la CARO.
Le prochain rendez-vous culturel dans quelques jours, hein, ça va déménager ?
Oui, ça va déménager. Donc, c'est les concerts du labo. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la communauté d'agglo est propriétaire, mais elle est aussi, par le service musique actuel, au sein du clos au quotidien. Et donc, voilà, il y a entre 10 et 15 concerts par an qui sont à la fois programmés et assumés financièrement par la collectivité. Donc, vendredi 10 octobre, ouverture des portes, 19h30, début des concerts, 20h30, avec en tête d'affiche Loco Muerte, qui est un groupe de métal chicanos, si j'ai bien tout compris. C'est du métal. Alors le métal, on aime bien au clos, on a fait un festival de métal cet été. C'est un public qui est super sympa, le public du métal. Et voilà, donc on a grand plaisir à commencer la saison avec la programmation de Christophe Pinault pour le labo avec Loco Muerte et puis la première partie dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Mais voilà, ça va être un grand concert, les gars. On a déjà beaucoup de réservations. Là, aujourd'hui, on doit être à 290 réservations. Le concert est gratuit comme toutes les propositions, mais par contre, il faut réserver en ligne néanmoins pour des questions de jauge et de sécurité. Donc voilà, il y a des places encore. Et si on n'a pas pu réserver en ligne parce qu'on peut aussi ne pas être enclin à travailler sur Internet, voilà, on garde 50 places sur place le jour même pour ceux qui ne seraient pas passés par Internet. ouverture des portes 19h30. Si on n'a pas pris de billet, vaut mieux venir tôt. Parce que plus on arrivera tardivement, moins il y a de chances d'avoir des places.
Christophe Escuriol, Denis Roland, merci. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
Et toujours du beau temps, hein, Pierre.
On continue de profiter en effet de ce bel anticyclone que l'on a en Charente-Maritime avec des températures plus qu'agréables. Là, on va relever cet après-midi 21 du côté de Bourg-Franche, Saint-Palais-sur-Mer, Le Vieux-Port de la Rochelle, Dolus, Rochefort, Saint-Félix ou encore Gémozac. Et la maximale attendue du côté de Loulet et de Saint-Sauvon avec 22 degrés. Et pour cette fin de semaine et ce week-end, eh bien, vous allez pouvoir également en profiter. Météo France nous annonce encore du soleil.
Chérie, tu as vu le nouveau poêle chez les voisins? C'est un Jotule. Il est magnifique et il chauffe super bien en plus.
Et ils font des économies. On devrait peut-être y penser, nous aussi.
Et tu sais quoi? Jusqu'au 15 octobre, la TVA est offerte sur les poêles à bois et granulés Jotule.
Alors là, c'est tout vu. On va vite chez Jotule.
Oh oui. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort. 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Jotule, fabricant de poêles et cheminées scandinaves depuis 1853. Voir conditions en magasin.